Voilà, alors on est chacun avec notre histoire. Hein. Donc moi, je suis un prêtre diocésain du diocèse du Mans. Et j'ai croisé des capucins dans ma vie. Hein. Des franciscains, non, mais des capucins, il y en avait dans mon diocèse. Ils étaient frères ou prêtres ouvriers. Et puis, ils avaient créé un petit ermitage en forêt de Persègne. Et c'était un endroit assez sympa pour se retirer au calme. Voilà. Mais je ne connais pas bien le charisme franciscain. N'empêche que j'arrive de Corse, là, où j'ai rencontré Pax Christi Corse, et alors je fais un petit écho, là, on a discuté avec l'évêque de Corse, hein, et dans la discussion, à un moment, j'ai dit, mais il me semble que c'est important qu'on regarde, parce que la Corse avait tous ces problèmes de violence, de vendetta que vous connaissez, hein, j'ai posé la question, mais le charisme franciscain, est-ce qu'il existe toujours en Corse? Parce qu'on aurait besoin de ce charisme-là. Et c'est une question que je pose assez souvent, d'ailleurs. Là, il y a un projet à Sainte-Mère-Église qui est en train de se faire avec une maison de la paix, là. Et on est en train aussi, j'ai posé la même question, est-ce que le charisme franciscain, il pourrait opérer un peu dans le coin sur des projets comme ça? Voilà, cela dit, je ne suis pas du tout franciscain ni de cette origine-là. J'ai quand même participé à un certain temps, il y avait des... Comment on appelle ça, le tiers ordre, hein, qui se réunissait là chez moi, et il demandait quelquefois assez régulièrement que je vienne faire des petits topos, donc j'ai passé un peu de temps avec eux, mais je peux pas dire que je connaisse beaucoup, hein, vous serez indulgent avec moi. Voilà, donc cette encyclique, elle est importante pour plein de raisons, on va y revenir dans quelques instants. Je crois qu'il y a des papes qui ont insisté lourdement sur la question de la paix. Et donc, pour nous, pour ce qui nous concerne, je pense que c'est important, donc notre pape actuel qui, par son prénom, on voit bien ce qu'il veut mettre en avant. Il y a aussi peut-être le pape précédent, le pape Benoît XVI, qui avait choisi son prénom en écho, entre autres, à Benoît XV. Et Benoît XV, c'est un pape qui a affronté la question de la Première Guerre mondiale, qui n'a pas été entendu. Ou peu entendu, à tort. Là, je suis basé à la paroisse de la Madeleine. Il y a un sermon célèbre du père Sertillange à la Madeleine en disant, très Saint-Père, ce que vous dites sur la paix, tout ça, c'est inapplicable. Voilà, en gros, c'est ça. C'est inapplicable, alors que, voilà, c'est sûr que cette Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, si on avait écouté un peu ce pape, on aurait sûrement vécu d'autres choses. Et il a posé, ce pape, beaucoup d'éléments théologiques importants sur ces questions de la paix et du désarmement. Je vous dis ça parce que derrière le texte de Pacementeris, il y a toute cette histoire qui est avant et qui n'est pas négligeable. Alors, Jean-Paul II avait déclaré pour la 18e journée mondiale de la jeunesse le 13 avril 2003 au Rameau, ceci, donc aux jeunes. Je vous remets à vous, jeunes du monde entier, ce document historique. Il s'agit de Pacementeris, si actuel. Lisez-le, méditez-le, efforcez-vous de le mettre en pratique. Vous serez alors bien heureux. Parce qu'authentique fils du Dieu de la paix. Voilà, je voulais vous citer ça parce que je trouvais que c'est important que ce pape nous ait dit à tous les jeunes du monde entier, ça doit être en gros un de vos livres de chevet. C'est pas rien. Alors, ce que je vais vous dire maintenant sur l'encyclique, et pas seulement sur l'encyclique, ça vient d'où je suis aussi. Donc personnellement, j'ai été expert comptable, commissaire aux comptes, tous ces boulots-là, parce que je trouvais que les prêtres qui étaient au-dessus de moi, en général, n'avaient pas connu le monde du travail, alors sauf les prêtres ouvriers et les enseignants, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui avaient connu le monde du travail, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de questions éthiques autour de ces questions-là. Donc j'ai un peu enseigné en fac pour me financer mes études, et puis j'ai aussi exercé ces métiers, expertise judiciaire aussi, d'audit. Et ça m'a permis de voir aussi tous les enjeux qu'il y a, parce que si vous avez l'évangile dans une main et puis le monde du travail de l'autre, vous sentez bien que c'est pas très très facile de faire marcher les deux ensemble. Hein. Je vois que parmi vous, il y en a qui opinent de la tête. Et c'est vrai qu'il y a des lieux de violence fortes, hein, dans ce monde du travail, et en même temps, on a un évangile qui est un évangile de paix. Alors, d'autre part, moi, on m'a envoyé, après avoir été 20 ans curé, faire une formation, donc je suis en train de faire passer un doctorat de Bible, et je suis spécialisé dans les langues anciennes, particulièrement les langues orientales anciennes. Voilà. Et donc, je vais repartir un peu de là pour qu'on reprenne du large, pour relire cette encyclique, et voir pourquoi c'est important non seulement de la fêter, mais de la vivre. Voilà. Et voir aussi peut-être qu'il y a des champs nouveaux qui n'ont pas été esquissés par Jean 23, mais qu'il nous faut regarder peut-être dans la logique de son texte. Alors, vous savez, sur les définitions de la paix, il y a un petit peu deux mondes différents. Donc il y a le monde indo-européen, dont nous faisons partie. Ce monde indo-européen, alors c'est tout un tas de langues qui se baladent à peu près sur toute l'Europe, hein, en gros, et puis sur le nord de l'Inde, une grosse partie de l'Inde, mais aussi presque toutes les Amériques. Hein. Donc ça fait quoi, presque 50% des langues aujourd'hui parlées dans le monde. Bon, or ces langues indo-européennes ont des racines communes et qui structurent notre façon de penser et d'être, beaucoup plus que vous n'imaginez. Alors, comment dans ce monde indo-européen on conçoit la paix ? La grande définition classique, elle est de saint Augustin. Il a dit dans la Cité de Dieu, la paix est la tranquillité de l'ordre. Voilà sa définition. Et dans Pacem in Terris, le pape reprend une autre citation de saint Augustin, mais vous allez voir qu'on est à peu près dans la même logique. Donc c'est un sermon de saint Augustin. Que ton âme se soumette à celui qui est en haut et elle vaincra ce qui est en bas, et tu auras la paix sans équivoque, deux points, la paix pleinement établie sur l'ordre. Donc, quand on disait que ce pape a un côté, je sais pas quoi, traditionnel, classique, oui, il est vraiment du monde latin, et on réfléchit comment, avec cette notion d'ordre. Si je reprends le plan de l'encyclique, première partie, le titre c'est « L'ordre entre les êtres humains ». Deuxième partie, « L'ordre au sein de chaque communauté politique ». Troisième partie, l'ordre entre les communautés politiques. Quatrième partie, l'ordre de la communauté mondiale. Et puis ça se termine, cinquième partie, directive pastorale. Vous voyez, hein, sur quatre parties qui sont structurées avec ce mot ordre, qui revient sans arrêt. Et si je lis le texte, je vais trouver régulièrement ceci. Il nous parle de l'ordre divin, de l'ordre admirable, de l'ordre aussi parfait, de l'ordre inscrit au plus intime des hommes que la conscience leur révèle et leur enjoint de respecter. Il parle de l'ordre juridique, de l'ordre collectif, de l'ordre spirituel, de l'ordre moral, universel, absolu et immuable, du bon ordre, de l'ordre naturel, etc. Ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça structure toute cette encyclique. Et donc, peut-être que pour nous, c'est important que nous en rendions compte. On va prendre un petit recul sur cette notion d'ordre dans quelques instants. Le pape précise la nature de cet ordre. Alors là, c'est Pacem in Terris numéro 9. Le fondement de toute société ordonnée et féconde, c'est le principe que tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté libre. Par là même, il est sujet de droits et de devoirs universels, inviolables, inaliénables. Donc vous voyez que toute cette problématique des droits de l'homme et des devoirs, elle vient à plein avec cette encyclique. Voilà. Je crois qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Il dit que ce n'est pas seulement une histoire de conscience, mais c'est aussi ce que nous dit la révélation. Selon la révélation, la dignité humaine tient à la grâce divine qui fait de nous des rachetés, des enfants et des amis de Dieu, des héritiers de la gloire éternelle. Cette notion d'ordre, si vous voulez bien, on va prendre du recul maintenant un tout petit peu. Je voudrais vous montrer combien ça structure notre façon de penser, nous les Occidentaux, les Indiens, une bonne partie des Indiens, mais que, justement, ça va nous permettre de réfléchir en se disant il y a peut-être d'autres cultures qui regardent les choses un peu autrement, hein, cette question de la paix. Donc, je vous rappelle, hein, saint Augustin, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Juste avant, je fais une petite insiste pour dire, vous savez, on a projeté là tout de suite, là, on voyait Concile Vatican II. Pendant le Concile Vatican II, il y a deux grands textes qui sont parus et qui sont, à mon avis, indispensables pour interpréter ce concile. Il y a beaucoup de gens qui veulent interpréter le concile et le tirer chacun de son côté. Je crois qu'il faut aussi regarder comment les papes ont quand même infléchi le tir en cours de route. Et donc, il y a, après cette première session du concile, il y en a eu quatre, hein, il y a cette encyclique Pacem in Terris, qui est vraiment très très novatrice, hein, voilà, qui a perturbé du monde aussi. Hein, bon. Et puis, il y a en plein débat de la quatrième session, mais alors en plein débat, juste sur les sujets qui étaient débattus, et je peux vous dire que ça flinguait assez dur, d'ailleurs, hein, entre les évêques à ce moment-là, l'intervention de Paul VI à l'ONU, hein, le grand discours de Paul VI à l'ONU. Et si on veut relire le Concile, c'est important, entre autres, hein, d'avoir aussi ces deux textes sous le coude qui ont donné des inflexions fortes. Hein. Voilà. Alors, quand je regarde cette notion d'ordre à travers les langues indo-européennes, nous sommes dans un monde où, quand on recherche, vous savez, à travers les langues comme ça, ce qu'on a comme vocabulaire commun, comme structure commune, comme façon de penser commune, c'est une recherche qui n'est pas facile à faire, hein, mais bon, ça fait plusieurs siècles. Disons plutôt deux siècles qu'on s'y attelle vraiment. Et je voudrais vous pointer ce que dit Émile Benveniste. Alors on va être deux secondes un peu plus technique, mais on va quitter ça rapidement, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le vocabulaire des institutions indo-européennes ». Donc là je parle du monde indo-européen. Il nous dit que cette notion d'ordre, c'est celle qui est la plus centrale, commune à toutes ces langues et à toutes ces civilisations. Ça va loin, hein, parce qu'il faut qu'on réfléchisse. Hein. Vous voyez bien, si je prends depuis l'Angleterre, en gros, sans compter les Amériques, hein, et puis que je prends la bande sur la carte, hein, la bande un peu nord, comme ça, hein, donc on a toute l'Europe, et puis ça s'en va jusqu'à l'Inde. Hein, mais si je prends la bande en dessous, en gros, c'est les langues sémitiques, on va y venir tout à l'heure. On verra que c'est important, nous, la révélation, elle nous est arrivée par le monde sémitique. Hein, donc c'est important, la notion de la paix ne va peut-être pas être tout à fait la même. Et c'est ce que a bien vu Benoît XVI, et la lettre de Benoît XVI du 1er janvier, justement, insiste sur ces choses. Ça vient compléter Pacem in Terris. Donc, je reviens à Benveniste. L'ordre, c'est une notion complètement centrale. On trouve même un dieu qui s'appelle le dieu Ordre dans l'Avesta, Artha. Hein. Ça a donné tout un tas de mots qu'on ne se rend pas compte, mais qui ont exactement la même origine. Hein. Quand vous dites ordre, quand vous dites vertu, ou arétès en grec, hein, ce qui veut dire vertu aussi, quand vous dites vérité, quand vous dites rite, quand vous dites art, quand vous dites articulation, tout ça, on est sur la même racine. Or, vous voyez bien que c'est des notions qui sont tout à fait capitales et qui traversent toutes nos sociétés. Hein. C'est important de se rendre compte de ça. On est dedans, donc on ne le voit pas, hein, mais si on prend du recul pour y réfléchir, je trouve que c'est terriblement important. Je vous fais juste une petite parenthèse pour vous rendre compte de ce genre de choses. Un jour, j'ai discuté avec des prêtres syriaques, orientaux. Donc, vous savez, c'est un des stades de la langue araméenne, le syriaque. Voilà. Pourquoi, au concile de Chalcédoine, ça ne s'est pas très bien passé avec eux? Tout simplement parce que on a voulu leur imposer le fait de raisonner sur le Christ, hein, en disant il est une seule personne en deux natures. Oui, très bien, mais ces mots personne et nature, ça n'existe pas en araméen. Vous comprenez? Donc, ils ne comprenaient rien. Ça ne pouvait pas marcher. Et donc, c'est pour nous important, sur ce travail de la paix, de se rendre compte qu'on arrive avec des cultures différentes et que la culture de Pacem in Terris, hein, de Jean XXIII, est une culture tout à fait classique latine. Voilà. Et donc, tout à fait centrée sur l'ordre, comme je vous l'ai montré. Donc, vous voyez bien que cette notion d'ordre, elle est centrale pour l'encyclique. Et ça veut dire que si on veut être dans la paix, il faut réaliser l'ordre à tous les niveaux. Donc au niveau de la famille, au niveau de la société, entre les nations. Et le plan de l'encyclique, il est structuré comme ça. Il y a un frère bénédictin qui a énormément travaillé ces questions-là, qui est brésilien, qui est peut-être en train de mourir, en tout cas il ne va pas très bien. Vous savez, il a une maladie de ses muscles qui dégénère, là. Voilà, c'est terrible, donc il est sous oxygène. Il était jusqu'à il n'y a pas très longtemps le prieur de l'abbaye de Tournai, dans le sud de la France, pas très loin de Lourdes. Il a écrit énormément sur la paix, et cet homme-là, il soulignait le fait que, en fait, il a repris le plan de Kant. Jean 23. Il a repris, pour faire Pacem in Terris, il reprend le plan de Emmanuel Kant. Alors ça veut dire que c'est une vieille question aussi qui traîne dans nos sociétés, et particulièrement, alors il y a un abbé de Saint-Pierre, si ça vous dit quelque chose, qui a écrit un projet de paix pour la paix en Europe. Hein, voilà. Et puis après, il y a Emmanuel Kant, il y a Jean-Jacques Rousseau, il y a tous ces gens-là. Et puis arrivent les premiers burets de la paix, vous savez, du côté de la Suisse, et puis des organisations de la paix qui se multiplient. Hein. Bon, je voudrais juste vous dire ça pour qu'on se remette sur cet arrière-fond-là. Voilà. Voilà, tout ça c'est très bien, mais ça nous donne une certaine vision de la paix. Donc vous pouvez relire entièrement cette encyclique avec cette clé-là, hein, la tranquillité de l'ordre, et vous allez retrouver tout à fait ça. En même temps, il y a des côtés très novateurs. Dans les côtés novateurs, je vais en souligner peut-être deux. Le premier, c'est que quand j'ai étudié beaucoup d'assez près les textes de Pie XII, et puis que j'ai comparé avec les textes de Jean 23, là, avec l'encyclique particulièrement, Pie XII parle sans arrêt de l'ordre, et il l'appelle l'ordre chrétien. Et Jean 23, jamais. Il ne dit pas l'ordre chrétien. Comme si il y avait une prise de conscience que ce monde avait évolué, et qu'il fallait développer la paix dans un monde où tout le monde n'était pas chrétien et tout le monde ne le serait pas. Voilà. D'où cet appel aux hommes de bonne volonté et toute une perspective qui n'est pas tellement présente chez Pie XII. Voilà, me semble-t-il. Hein. Alors, sous réserve de ce que diront les historiens derrière moi, je ne suis pas historien, hein. Enfin, en lisant les textes, c'est ce qui m'est apparu très clair. La deuxième chose, dans les choses tout à fait nouvelles, c'est qu'il réussit ce tour de force de ne jamais parler, de ne jamais parler de la guerre juste. Voilà. Il dit que la guerre, ce n'est plus un mode de résolution des conflits. Il faut sortir de ça. C'est plutôt novateur, hein, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'Église, hein, sa théologie, voilà, sauf peut-être avec les premiers siècles. Mais je vais accélérer parce que je vois que le temps tourne, et je vais vous dire tout de suite, quand je regarde maintenant comment Benoît XVI, dans la lettre du 1er janvier, parle de cette fête de Pacem in Terris, de ce 50e anniversaire. Alors, il recite, je ne l'ai pas tout à fait sous les yeux, mais c'est pas grave, je vais faire de mémoire. Donc, vous savez que le thème qu'il avait choisi, c'est la béatitude que je vais vous traduire à ma manière, en bibliste, « Heureux les paix-faiseurs, heureux les paix-faiseurs, parce que eux, c'est fils de Dieu qu'ils seront appelés. » Je crois qu'il y a une insistance très forte, c'est pas construit du tout n'importe comment ce passage de Matthieu. « Heureux les paix-faiseurs, les peacemakers, parce que eux, c'est fils de Dieu qu'ils seront appelés. » Et donc, il reprend à deux ou trois endroits des éléments de cette encyclique de Jean 23, hein, en particulier les quatre piliers, bon, vous connaissez ça, hein, la vérité, la liberté, etc. Mais il dit, en fait, on sait qu'il a travaillé en reprenant les racines sémitiques. Donc la racine sémitique qui est pour nous derrière, c'est shalom, ça vous dit quelque chose sans doute, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de langue sémitique, mais je voudrais vous dire que le mot paix, c'est pas shalom, ça ne veut pas d'abord dire ça historiquement quand on regarde de très près. Cette racine, et je trouve que c'est intéressant, c'est une racine qui veut dire la plénitude et l'accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement de quelque chose pour aller à une plénitude. Si je, dans le courrier que je fais, alors je peux prendre du vieux courrier, je sais pas quoi, des lettres de Garit ou voilà, si je lis dedans les formules de politesse, mais ça se dit encore aujourd'hui, un évêque quand il ouvre la messe, il vous dit que la paix soit avec vous, hein, eh bien c'est déjà là. Et en fait, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire la santé, ça veut dire être bien dans des baskets, ça veut dire toute une espèce de plénitude, voilà, d'accomplissement à se faire jusqu'à aller à une plénitude. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la tranquillité de l'ordre, même si ce n'est pas tout à fait étranger non plus, mais vous sentez bien. Hein, c'est... Et donc, pour nous, à travers la révélation, la paix, c'est le travail de Dieu, c'est le Christ qui est notre paix. Et donc, quelque part, c'est de participer à ce travail d'accomplissement que le Seigneur fait, hein, qui, c'est lui qui fait la paix. C'est pas rien, hein. On pourrait travailler même sur la grammaire, hein, parce qu'il y a des temps, enfin c'est même pas des temps en hébreu, c'est des aspects au début, hein, ça s'appelle l'accompli, on conjugue à l'accompli ou à l'inaccompli, pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, hein, ou d'araméen, ou d'autres langues comme ça. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que le nom même de Dieu, hein, il est à l'inaccompli, c'est-à-dire il ne cesse d'accomplir. Voilà. Yahvé, hein, voilà. Je suis celui qui suis. Alors, Saint Jean va traduire celui qui était, qui est, et pour nous montrer que c'est pas qui sera, mais qu'il est bien vivant, c'est, et qui vient, hein, qui vient à nous. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi fêter Pacem in Terris ? C'est parce que ça nous donne, voilà, des ouvertures considérables sur ce que c'est que faire la paix. Et je voudrais maintenant déboucher sur deux points précis, puis je vais m'arrêter. Le premier point, ça va consister à vous dire, et il y a un problème d'inculturation. Ce que Jean 23 nous a donné dans une pensée d'origine plutôt latine, voilà, indo-européenne, hein, il s'agit aussi de le faire passer à toutes les civilisations. Or, là, je pense qu'il y a un défi immense. La façon de faire la paix, est-ce qu'elle doit, ou de faire la démocratie, par exemple, est-ce qu'elle doit se faire exactement de la même manière qu'en Occident ? Pas sûr, hein ? Et il y a peut-être d'autres manières de le faire, hein, chacun dans sa culture. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais faire, c'est déboucher deux secondes sur Pax Christi, hein, parce que vous m'aviez dit que ce serait bien que j'en touche deux mots. Donc moi, je me suis retrouvé nommé par les évêques à ce poste-là, alors que j'avais jamais fait partie de Pax Christi, je savais même pas ce que c'était, et je me retrouve responsable national. Alors je vous dis que au début, c'est un peu folklore, faut découvrir tout un monde, hein, et j'ai découvert des choses passionnantes. Alors c'est un petit mouvement qui est né en 1944, hein, autour de la prière pour la paix. L'idée, c'était de dire, on a fait assez les idiots dans l'histoire comme ça, on va prier pour la paix, spécialement France-Allemagne. Et très vite, Pax Christi Allemagne s'est créée dans la foulée. Alors, la fondatrice, elle a été maligne, elle était copine de Monseigneur Théas, qui était un évêque résistant, hein, comme vous savez, et qui a mis dans le coup 40 évêques, en disant que c'était important, et voilà, avant qu'on fasse l'Europe, voilà, déjà ça se met en place. Hein. C'est assez fabuleux l'histoire de ce mouvement, c'est un petit mouvement, mais je trouve que c'est tout à fait passionnant. D'où, alors nous, on résume les... Alors, c'est un mouvement qui prie, c'est un mouvement qui réfléchit, c'est un mouvement qui agit, alors, comme presque tous les mouvements. Hein. Voilà. Et on résume nos domaines d'action sur 5 D, la lettre D étant un petit moyen mnémotechnique. Voilà. Donc, nos deux premiers D dans l'histoire, ça a été le dialogue et l'éducation à la paix. Hein. Commençons par éduquer nos jeunes, nos enfants à la paix. Hein. C'est ça qui sera peut-être le plus efficace à terme pour que les Européens ne se massacrent pas, etc. Le deuxième D, bah vous allez le comprendre tout de suite, c'est le désarmement, et c'est arrivé tout de suite parce qu'en 1945, il y a Hiroshima et Nagasaki. Hein. Donc tout ce travail de Pax Christi autour de désarmement qui est énorme en lien avec le Vatican. Hein. Où nous tenons des positions du Vatican, mais qui sont des positions très très en avant, et les Français, on dort complètement. Là. C'est absolument incroyable le silence là-dessus et l'espèce de pseudo-consensus qu'on a sur ces questions-là. C'est impressionnant. Il est grand temps que les Français se réveillent sur ces questions-là. Voilà. Et l'Église dit des choses, mais elle n'est pas souvent entendue. Mais même les évêques ne sont pas très au courant, un certain nombre. Hein. Il faut aussi de temps en temps les secouer sur ces questions-là. Voilà, le troisième dé qui est arrivé dans l'histoire, il est important aussi parce que, vous allez comprendre, travailler à la paix, c'est travailler aussi à la source de ce qu'est le contraire, c'est-à-dire des violences. S'il faut regarder où sont les violences, c'est traiter en amont. Hein. Alors, le cardinal Feltin, hein, à Paris, qui était président de Pax Christi International à l'époque, en 1960, il a eu dans une conférence un mot qui a été repris par tous les papes après. Le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Hein, alors tous les papes lui ont piqué ça, tous, hein, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Donc l'idée, c'est, ça suffit pas de, parce qu'il y a des gens qui ont faim, de leur donner à manger, très bien, il faut, mais il faut faire en sorte que de par eux-mêmes ils aient les moyens de se développer. Donc voilà, donc cette violence de la faim qui est une des plus terribles, hein, voilà. Donc on a l'origine quelque part de la création du CCFD et d'autres choses comme ça. Ça, ça fait mon troisième D. Mon quatrième D, il est arrivé à l'époque de Jean-Paul II, l'histoire des droits de l'homme. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses sur les droits de l'homme, nous un peu aussi, bon, voilà. Mais vous voyez bien que c'est ce que nous disait Jean 23 dans l'encyclique. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tranquillité de l'ordre ? C'est, ça repose sur la personne qui est sujette de droits et de devoirs. Hein. Et puis alors le dernier dé, il est un peu bancal, c'était pour faire un dernier dé, on l'appelle la défense de la création et l'environnement et les nouveaux modes de vie. Voilà, alors on a créé la cellule environnement des évêques de France, on a créé un réseau œcuménique sur ces questions-là, hein. des campagnes aussi, hein, pour vivre l'été autrement, pour vivre Noël autrement, et ça c'est l'idée de la paix à travers les générations. Parce que si on transmet un monde pourri à nos enfants, si je puis dire, il est très très clair qu'on leur laisse des violences terribles. Voilà. Alors les violences intergénérationnelles, elles sont aussi sous cette forme-là. Donc voilà, ce petit mouvement Pax Christi, il a sa logique autour de la paix, mais avec différentes facettes qui sont colorées tout simplement par l'histoire du monde au même moment. Je m'arrête. J'espère que je suis à peu près dans les temps, j'espère.